Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Jocelyne Moussao Pondé. Les mauvaises conditions de l'Institut Chumou-Basila dans le territoire de Kamout, au Maïndombe, perturbent le calendrier scolaire. Le préfet de cette école, construite en chaume et en briques en terre, plaide auprès des autorités pour la construction et l'équipement de cet établissement. La sous-secrétaire adjointe américaine, direction des océans et des affaires écologiques et scientifiques, appelle le gouvernement congolais à endiguer la corruption, les fléaux qui détruisent l'environnement avec le trafic des espèces animales et le braconnage. Monica Medina est en séjour au Nord Kivu. Notre invité, c'est Patrick Mouyaya. En marge de 20 ans de la fréquence de la paix, il souhaite, en tant que ministre de la communication et médias, d'hériter d'une machine qui s'appelle Radio Kapi après le départ de la MONUSCO. Bonjour à tous. Les mauvaises conditions dans lesquelles étudient les élèves de l'Institut Chumou-Basila, situé au village Etumbalangbaka dans le territoire de Kwamout, province du Maïndombe, perturbent sensiblement le calendrier scolaire. C'est ce qu'a dit à Radio Kapi le préfet des études de cet établissement scolaire public. Jacques Kawata indique que cette école, qui est construite en chaume et en briques, en terre, est très délabrée. Selon lui, cet état des choses ne permet pas aux élèves de bien suivre les enseignements, surtout les jours des pluies. Il s'est dit préoccupé et plaide auprès du gouvernement provincial et national pour la construction et l'équipement de cet établissement scolaire. Irène Boma nous en dit plus.
Avec une toiture en chaume communément appelée Ndélé et bâtiment construit en briques adobe depuis plusieurs années, l'Institut Moubanzila est actuellement dans un état de détérioration très considérable. Les jours de pluie, les élèves restent à la maison en vue d'éviter tout désagrément à l'école et du coup, tous les enseignements ainsi que d'autres activités scolaires prévues sont reportés. Pour Jacques Kawata, préfet des études du dit établissement scolaire, cet état de choses a des répercussions sur les calendriers scolaires.
Les mauvaises conditions de l'école perturbent totalement les calendriers scolaires, encore moins les programmes nationaux. Si par exemple il y a menace de pluie, nous sommes contraints de libérer les enfants et l'examen rate. Même pendant la période des cours, nous connaissons toujours les mêmes difficultés. Et c'est la raison pour laquelle nous arrivons toujours à lancer des cris d'alarme que les autorités nous viennent en aide pour que l'école nous soit construite afin que nous arrivions à respecter les calendriers et à achever parfaitement les programmes nationaux de l'enseignement.
Outre cette situation, les élèves de l'Institut Moubanzila se mettent sur des bancs traditionnels fabriqués à base de troncs d'arbres et plusieurs matériels didactiques manquent dans cette école, a dit le préfet Jacques Kawata. Irène Boma, Bandunduville, Radio Okapi.
Au Maniema, les enseignants de toutes les écoles primaires publiques du territoire de Pangui sont en grève depuis le jeudi 24 février. Ces enseignants réclament le paiement de leur prime de gratuité du mois de décembre 2021, le paiement des salaires des enseignants non payés, nouvelle unité, et enfin le paiement des arriérés des frais de fonctionnement de mois de mars, août et novembre 2021. Selon le permanent adjoint du CIECO, Sengi Kaline de Joseph, les enseignants des Pangui conditionne la reprise des activités par la réponse à leurs revendications. On l'écoute, il a été joint par Florence Kizalunga.
Les enseignants ont décidé de décréter un mouvement de grève à partir de ce jeudi 24 février, tout l'étendue du territoire de Pangui. Nous vous disons, c'est à cause de la déception et l'émotion, ainsi que la consternation due par l'absence volontaire de la prime de gratuité du mois de décembre 2021. Considérant aussi le non-paiement volontaire des salaires des enseignants NPENI du primaire prévu aux frais de solidarité, mais aussi le retard de paie des frais de fonctionnement mars 2021, août et novembre 2021. Égal à tous ceux qui précèdent là-bas, les enseignants acceptent d'entrer en grève et ils sont déjà en grève. La grève qui a certainement réussi parce que partout ici, il n'y a personne qui est venu à l'école et les enfants sont rentrés à temps. Et cela jusqu'à nouvel ordre. Nous disons qu'on ne doit plus reculer. Trop, c'est trop. Donc, le gouvernement doit faire le tout pour résoudre les problèmes. Dans les cas contraires, nous allons considérer cette année chez nous comme une année blanche. On n'acceptera plus de retourner si on ne parvient pas à résoudre ces trois problèmes là-bas.
Et puis, la Confédération démocratique des travailleurs, CDT, appelle le gouvernement de la RDC à réhabiliter le taux de 20% à rétrocéder aux agents et cadres de la Direction générale des impôts, DGI, en cas de plus-value réalisée dans la mobilisation des recettes. Guy Coucou, président de cette structure syndicale, dit qu'en dépit du dépassement des assignations budgétaires lors de l'exercice 2021, les travailleurs de cette régie financière ne bénéficient pas de leurs primes. Il a déclaré hier vendredi au cours d'un point de presse ici à Kinshasa. Guy Coucou est au micro de Paul Matendo.
La CDT note qu'en dépit de ses efforts de maximisation des recettes, le personnel de cette régie financière ne bénéficie pas d'un retour d'ascenseur proportionnel. Il y a absence d'une politique rémunératrice d'encouragement conséquent susceptible de maintenir cette mobilisation accrue des recettes pour les agents. Nous demandons l'apurement dans un délai raisonnable de la quotité de 1% sur la prime spéciale promise sur les contrats de performance. Nous demandons la réhabilitation du taux de 20% à rétrocéder en cas de plus-value réalisée en lieu et place de 6%. Nous demandons la promotion d'une politique de rémunération incitative. Nous demandons aussi la régularisation de la situation administrative des agents restés longtemps sans position. Pour votre information, malgré toutes ces performances, il y a des gens qui n'ont pas toujours de matricule.
Rendons-nous au Nord Kivu où les cultures de manioc sont attaquées par des insectes ravageurs dont la chefferie de Bachou depuis 3 mois. C'est dans les territoires de Beni à la limite avec la ville de Butembo. Kasereka Safari, agronome de la chefferie qui redoute des conséquences alimentaires dues à cette situation, appelle à l'intervention des autorités compétentes et organisations humanitaires qui œuvrent dans ce domaine. Il a été joint au téléphone par Sadiki Aboubakar.
Depuis 3 mois, la culture de manioc est attaquée par les homoptères. Ces insectes se développent sur la tige et sur le jeune feuille du manioc. Étant donné que la culture du manioc est de grande valeur économique, mais aussi le manioc est consommé de plusieurs manières par la population locale, nous craignons pour une famine dans les jours futurs. Pour le moment, nous avons d'abord préconisé la lutte physique. Et celle-ci consiste à extirper la plante attaquée par ces insectes à brûler sur le champ. Nous pensons que cette méthode va aider beaucoup plus pour éradiquer le plus tôt possible la maladie dans cette région. Nous appelons la population à continuer à consommer comme d'habitude des légumes tout en tenant compte de la propriété des feuilles à consommer.
Je l'ai dit dans les titres, la sous-secrétaire adjointe direction des océans et des affaires écologiques et scientifiques en séjour au Nord Kivu appelle le gouvernement congolais à endiguer la corruption qui est le fléau qui détruit l'environnement avec le trafic des espèces animales et le braconnage. Madame Edina Monica l'a dit hier au cours d'une conférence de presse qu'elle a animée conjointement avec l'ambassadeur américain en RDC, Mike Hammer, à l'espace américain à Goma où il séjourne depuis mercredi. La diplomate américaine exhorte le gouvernement congolais à améliorer la bonne gouvernance et à éradiquer la corruption afin de bénéficier davantage des financements de son pays et d'autres pour les projets de développement. Monica Medina, dans ses propos recueillis par Denise Lukeso.
La corruption, c'est l'une des choses qui fait à ce qu'il y ait tout ce trafic de ces animaux et toutes ces actions qui détruisent l'environnement dans notre région ici. Et je voudrais, n'est-ce pas, lancer un message d'encouragement au gouvernement congolais de tout faire pour endiguer ce fléau-là de la corruption. Parce que la corruption est en train de faire à ce que nous ne sommes pas en train de sauver l'héritage ou bien l'environnement qui n'est pas seulement le nôtre, mais qui concerne toute l'humanité entière. Toutes ces personnes qui sont impliquées dans la corruption ou bien dans ces différentes pratiques ici, c'est parce qu'ils trouvent un espace où le gouvernement congolais n'est pas présent. Le fait que nous soyons en train de travailler pour combattre la corruption sera une façon de pouvoir nous aider à la création de beaucoup plus d'emplois pour la génération actuelle, mais également pour les générations à venir. Notre gouvernement est en train de soutenir le gouvernement congolais. C'est dans l'appui que nous accordons aux différents gardes-parcs en leur donnant un appui qui leur permet de circuler et d'être en mesure de détecter les zones où il y a les groupes armés notamment. Au niveau national, nous travaillons également avec le gouvernement congolais pour l'encourager à pouvoir endiguer la corruption à tous les niveaux.
Élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces au Kasaï central. La Société congolaise pour l'état de droit s'est dit étonnée du nouveau report de ces scrutins. Dans un communiqué publié par son directeur général, Dominique Kambala juge les deux motifs évoqués, notamment le respect de la procédure des décaissements des fonds à la BCC et le souci d'inclusivité non convaincante. Selon lui, les provinces à problème continuent de souffrir par manque de ces élections. Les propos de Dominique Kambala sont recueillis par François Kadima.
En ce qui concerne la procédure de décaissement des fonds, on peut recourir à une procédure d'urgence. Les procédures d'urgence existent dans les institutions. Et qu'aujourd'hui, les respects de cette procédure pour retarder la vie des provinces qui est délétère, ça fait quand même problème. Et puis, lorsqu'on parle du souci d'inclusivité, qu'est-ce que cela veut dire au fait? Quels sont les éléments de détail qui peuvent nous convaincre que ce motif est valable? Et que donc, nous estimons que ce sont des motifs qui n'ont pas été suffisamment motivés. Et notre sentiment est que la société congolaise commence à émettre des doutes sérieux sur l'intégrité, l'indépendance de la CENI. Au-delà de ça, elle désapprouve cette culture du non-respect de la parole donnée et des engagements pris qui n'a plus le droit de citer dans un état de droit.
Lancée mercredi dernier à Kisangani, la campagne d'éducation citoyenne pour l'éveil de conscience se poursuit dans la ville. C'est une initiative du collectif Amka Congo. Une vingtaine de sensibilisateurs est désormais sur le terrain pour la sensibilisation des Congolais, notamment par rapport au rôle du peuple dans un état dit de droit. Cette population doit également connaître ses droits et obligations pour espérer un Congo nouveau. Au micro de Jacques Moukonkolé, Jacques Sizahera explique en quoi consiste cette campagne.
Cette campagne consiste à former les évangélistes citoyens pour un Congo nouveau. On va sensibiliser nos mamans à se connaître les lois fondamentales du pays pour sauver ce Congo. Il y a le verset de Proverbe qui nous a révolté: mon peuple périt par manque de connaissances. Et les Congolais, on est en train de souffrir parce qu'on ne connaît pas nos droits, on ne connaît pas nos obligations. Et à travers cette campagne d'éducation citoyenne, si les Congolais seront outillés par les lois du pays, personne ne pourra nous tracasser, personne ne pourra gérer le pays comme son patrimoine privé. Ce qu'on ne libère pas un peuple, le peuple se libère. Le peuple congolais doit prendre conscience de son malheur, c'est que le peuple congolais ne doit plus contribuer à tuer le pays. Tuer le pays, ce n'est pas seulement gouverner. Tuer le pays, ce n'est pas revendiquer ses droits. Si vous êtes en train de payer les taxes sans demander les référencements dans les textes réglementaires du pays, vous êtes aussi complice du sous-développement, du malheur du Congo. C'est que tout Congolais doit prendre conscience, tout Congolais doit savoir ses droits et obligations et doit savoir les lois qui le lient à l'État. On veut se faire évangéliste pour que le peuple soit même responsable d'un Congo nouveau et que le peuple contribue au changement au pays.
Dans la province du Tanganyika, le ministre provincial de la jeunesse appelle les médias à focaliser leur attention sur la jeunesse, l'avenir du pays. Le ministre provincial vient de lancer cet appel à l'occasion de la journée de réflexion sur les 20 ans de Radio Okapi. Je vous propose d'écouter le ministre provincial Ali Lugogo Raligo dans ses propos recueillis par François-Xavier Mibé.
Grande est ma joie de voir la radio Okapi contribuer, puisqu'elle a toujours contribué, non seulement à l'unité de la République démocratique du Congo, je vais parler de la province de Tanganyika, mais aussi la pacification de notre chère province, la province du Tanganyika, qui est une province Eldorado, une province aujourd'hui qui attire tout le monde. La pacification amorcée par la radio Okapi a eu un impact qui n'est pas à contester. Je vais parler ici de la paix, de l'unité et de la cohésion provinciale, pour ne pas parler de la cohésion nationale. Je voudrais actuellement que la radio Okapi ait un accent sur la jeunesse, profitant de ce cadre où il y a tous les médias, où nous pouvons nous exprimer. Au nom du gouverneur de province, Monisamba Kayabala, j'appelle tous les jeunes à l'unité, à l'excellence et au civisme, tout en copiant le modèle de la radio Okapi.
Actualité internationale. La Russie a mis hier, comme attendu, son veto lors d'un vote au Conseil de sécurité de l'ONU à une résolution coécrite par les États-Unis et l'Albanie, déplorant dans les termes les plus forts son agression contre l'Ukraine et lui réclamant de retirer immédiatement ses troupes de ce pays. Sur le 15 membres du Conseil, 11 pays ont voté en faveur du texte, 3 se sont abstenus, la Chine, l'Inde et les Émirats arabes unis. Le projet avait été été adouci par dans les heures précédant les scrutins pour sécuriser des abstentions et éviter que ces trois pays ne votent non, selon un diplomate. Le texte proposé ne comportait ainsi plus le terme condamné, remplacé par déploré, une référence au chapitre 7 de la charte de l'ONU qui prévoit un possible recours à la force a aussi été supprimé.
L'invité.
À l'occasion du 20e anniversaire de Radio Okapi, Patrick Muyaya souhaite, en tant que ministre de la Communication et des Médias, hériter d'une machine qui s'appelle Radio Okapi après le départ de la MONUSCO. Pour Patrick Muyaya, le service qui est rendu, la capacité de déploiement dans le pays, la crédibilité des journalistes et des émissions sont des choses que les Congolais ne peuvent pas perdre. Patrick Muyaya est l'invité de notre journal. Il s'entretient avec Blaise Shindani Kambala.
Bonjour, monsieur le ministre.
Bonjour, monsieur Blaise.
Oui, Radio Okapi totalise 20 ans aujourd'hui. Quelle lecture faites-vous de son parcours ?
De féliciter tous ceux qui ont construit l'histoire, parce que Radio Okapi, en 20 ans, c'est les 20 dernières années de l'histoire politique de la République démocratique du Congo. C'est un accompagnement stratégique à l'action du gouvernement, à la fois de la MONUSCO et des populations congolaises. Je pense qu'au bout de 20 ans, il y a de quoi, et ce ne serait pas trop de dire merci à tous ceux qui ont rendu cette œuvre possible pour leur engagement et pour le professionnalisme dans le travail.
En tant qu'ancien journaliste ou député national, quelle était votre impression par rapport à la ligne éditoriale de la Radio Okapi ?
Disons que la ligne éditoriale, elle était alignée sur les objectifs de la MONUSCO, qui étaient ceux d'appuyer les efforts du gouvernement. Mais Radio Okapi a aussi tenu compte de la pluralité du contexte des opinions congolaises, notamment à travers des émissions comme Dialogue Inter-Congolais, qui confrontent les idées, qui permet aux uns aux autres de discuter de manière équilibrée, d'apporter l'information. Alors, la ligne éditoriale, c'est aussi, cette fois-ci, cette capacité à s'adapter aux impératifs du moment. Ça veut dire que nous avions eu entre-temps la transition. Après la transition, on a eu les premières élections, les deuxièmes, les troisièmes, et qu'il y a eu cet accompagnement constant de Radio Okapi en termes des lignes éditoriales. Mais j'espère que cette fois-ci, il y a un grand besoin en termes d'adaptation par rapport à certaines exigences, notamment le besoin, par exemple, de renforcer la communication autour des relations entre les casques bleus, la population, la police, l'armée, parce que c'est aussi, à mon avis, un des points cruciaux sur lesquels le gouvernement collabore avec la MONUSCO. Et donc, Radio Okapi serait un grand allié si, dans la ligne éditoriale, il y a une certaine adaptation qui tend vers des programmes qui vont renforcer la collaboration entre civils et militaires et civils et policiers.
Patrick Muyaya, aujourd'hui devenu ministre de la Communication et Médias, il est aussi arrivé qu'il y ait mésentente entre votre ministère et Radio Okapi.
Bon, à ce jour, il n'y a vraiment pas eu, à mon avis, des mésententes, sinon je voulais vivement protester. Mais je crois qu'il n'y a pas besoin d'ailleurs d'avoir des mésententes, parce que nous sommes en train de faire un travail qui requiert de la critique, et si la critique passe par des médias, notamment Radio Okapi, il n'y a pas des difficultés pour nous quant à ce. Mais l'objectif, et c'est aussi l'un des points que nous avons abordé durant les derniers états généraux, c'est d'avoir des médias qui nous accompagnent. Évidemment, la distance critique, le président de la République l'a dit, on n'aliénera jamais l'indépendance de médias, mais il y a un impératif qui requiert un accompagnement étroit. Je sais par exemple qu'à plusieurs reprises, certains services se sont plaints de la manière dont l'information est traité au niveau de la MONUSCO, notamment l'information sécuritaire. Mais je crois que depuis que nous sommes là, nous essayons de collaborer de manière étroite avec la division de l'information publique des Nations Unies, ainsi que les Radio Okapi, pour voir dans quelle mesure on apporte les informations à temps, recoupées, et qui tiennent compte de la nécessité de préserver, par exemple, la vie de nos troupes qui sont engagées sur nos fronts et les informations liées à la stratégie des opérations sur terrain.
En tant qu'acteur politique de ces pays, quel avenir souhaiteriez-vous pour Radio Okapi après le départ de la MONUSCO, et si vous avez un message à lancer à propos de cet anniversaire?
Je pense l'avoir déjà dit à l'occasion de l'émission spéciale Dialogue entre Congolais que j'avais co-animé avec Madame Bintou. Je serais, moi, heureux, comme ministre de la Communication et des Médias, d'hériter, entre guillemets, d'une machine qui s'appelle Radio Capi, parce que même si la Monusco part, les services qui est rendu, la capacité des déploiements dans le pays, la crédibilité des journalistes et des émissions, c'est des choses que nous ne pouvons pas perdre. Évidemment, il y aura la question de la prise en charge. Moi, gouvernement, je me ferai volontiers pour porter l'idée d'accorder une subvention à ces médias qui doit garder sa ligne, mais qui doit continuer d'exister pour apporter les informations à nos populations et pour renforcer l'action, cette fois-là, du gouvernement dans le sens de donner la bonne information, dans le sens des éduquer nos populations dans le sens de les divertir aussi, parce que ce sens-là, l'émission classique d'un média.
Patrick Mouyaya, ministre de la Communication, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.